France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 2, premières expéditions. En l'année 1500, deux ans après que Christophe Colomb a posé le pied pour la première fois sur une île des Bahamas, le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral débarque dans une baie qui lui paraît propice au mouillage. Il nomme cet endroit Vera Cruz, la vraie croix. La religion catholique vient de faire son entrée sur le continent sud-américain. Les habitants de ce qui constitue le Brésil actuel sont sur le point d'être rattrapés par la civilisation occidentale. On estime à quelques millions le nombre de personnes qui vivent alors sur cette terre. Ceux qui habitent dans l'intérieur ont encore quelques siècles devant eux avant de rencontrer une personne blanche pour la première fois. Les colons s'intéressent d'abord aux régions littorales, car s'enfoncer dans la forêt est difficile et coûteux. Mais au fur et à mesure des années, les Européens gagnent vers l'ouest. Et à mesure qu'ils créent des pistes pour exploiter la terre, ils rencontrent des sociétés autochtones dont ils bouleversent les habitudes, qu'ils asservissent et convertissent, et auxquelles ils transmettent des maladies. Au moment de la première expédition des Lévi-Strauss en Amazonie, en 1935, la population autochtone est déjà résiduelle par rapport à ce qu'elle était du temps d'Álvares Cabral. Certains villages de ceux qu'on appelle alors les indigènes continuent pourtant de vivre comme du temps de leurs ancêtres. Dans de nombreux cas, des missionnaires, des explorateurs et des ethnologues occidentaux sont déjà venus à leur rencontre et ont vécu dans leur village. Les Lévi-Strauss, qui ont lu leurs récits, savent qu'ils ne seront pas, dans bien des cas, les premiers à les rencontrer. Ils ne pourront pas, comme ils l'ont rêvé, faire un voyage radical dans le temps, se retrouver plongés dans un monde intouché. Aussi, quand les Lévi-Strauss s'enfoncent dans la forêt à la recherche de ces peuples autochtones, Claude ne peut s'empêcher de se demander « Et si j'arrivais trop tard ?»
Nous voudrions nous mettre dans la position idéale qui fut celle de Christophe Colomb et découvrir un nouveau monde. Malheureusement, ce que nous sommes obligés de constater, même chez les populations les plus primitives, c'est qu'il n'existe plus de nouveau monde et que, pour arriver à retrouver des conditions analogues à celles du passé, il faudrait se rendre non pas en Amazonie, mais dans la Lune. Et cette constatation que le monde est devenu un, que le monde est fini, c'est l'amère constatation du voyage.
Emmanuelle Loyer, vous êtes historienne, professeure à Sciences Po et autrice d'une biographie de Claude Lévi-Strauss publiée aux éditions Flammarion. Que vous inspire cette première archive ?
L'amère leçon du voyage, en effet, le sentiment que l'unification du monde est quelque part une sorte de malédiction. Et ce que ne cessera de constater et d'écrire Lévi-Strauss, notamment dans Triste Tropique, cette idée que le monde est devenu trop petit pour notre humanité.
Pourquoi est-ce que le voyage est forcément amer et pourquoi commence-t-il par « Je déteste les voyages », première phrase de Triste Tropique ?
Ça, c'est un peu une sorte de provocation comme il les aimait. Je pense que c'est un bon début. Il est aussi contemporain, finalement, du voyage, de la passion du voyage qui date du 19e siècle, mais de la démocratisation du voyage. Il dit toujours que le 19e siècle, c'était un bon compromis entre, finalement, un certain nombre déjà de techniques de voyage qui permettaient d'aller un peu plus loin que quelques jours de marche, et en même temps un monde encore inexploré. Donc il y a ce fantasme un peu de, à la fois, enfin il y a un double fantasme temporel qu'on entend dans l'archive, celui du XVIe siècle, Jean de Léry, et puis celui du XIXe siècle. Il ne cessera de dire qu'il est un homme du 19e siècle. Cette manière, finalement, de ne pas coller à son contemporain, c'est quelque chose de très, très important pour comprendre Claude Lévi-Strauss.
Dans les premières pages de Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss écrit ceci. Je voudrais avoir vécu autant des vrais voyages, quand s'offrait, dans toute sa splendeur, un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. Quand fallait-il voir l'Inde ? eût-il mieux valu arriver à Rio au XVIIIe siècle avec Bougainville ou au XVIe siècle avec les riz et TV? Chaque lustre en arrière me permet de sauver une coutume, mais m'enlevant un siècle, je renonce du même coup à des informations et à des curiosités propres à enrichir ma réflexion. Emmanuel Loyer, cet extrait de Triste Tropique a été écrit 20 ans après la première mission de Lévi-Strauss. Est-ce qu'il a déjà cette sensation d'arriver trop tard à 26 ans quand il va se lancer avec Dina dans cette première expédition? Ou est-ce que c'est au fond une réflexion qu'il a mûrie par la suite? Autrement dit, est-ce qu'il est dans la fougue de la jeunesse, peut-être dans une inconscience un petit peu plus grande?
Non, je pense que c'est pas de la reconstruction. Je pense qu'il l'a véritablement ressenti et il l'a formulé d'ailleurs dans certaines lettres. Il a formulé cette aporie, finalement, qu'il explicite dans Triste Tropique, c'est-à-dire que, à la fois, il aurait envie d'accéder à des peuples encore intouchés, mais en même temps, dans ce cas, il n'aurait aucun moyen d'en tirer un enseignement, puisqu'il n'y aurait pas de truchement. C'est la question du truchement, comme on appelait ça en ethnographie, c'est-à-dire du traducteur, du go-between, si vous voulez. Ou alors, au contraire, une connaissance riche à travers un certain nombre de ces Amérindiens truchements, mais à l'égard de peuples déjà en partie transformés par le contact avec l'Occident.
Et ça entraîne une certaine mélancolie, déjà, chez Claude Lévi-Strauss.
Oui, tout à fait. Mais je pense que oui. Par exemple, vous voyez, pour dire que c'est pas une reconstruction, il y a un passage célèbre dans Triste Tropique, qui est une plage d'ennui. On revient à l'ennui et il commence à écrire une pièce de théâtre parce qu'il s'embête. Donc il écrit une pièce de théâtre. Eh bien, ça, c'est pas du tout de la reconstruction. Il l'a vraiment écrite. Donc il y a des moments sur le terrain et on perçoit à quel point le terrain ethnologique, c'est très violent, c'est très dur. Il est vraiment traversé parfois par des angoisses, quoi, très très grandes, et des angoisses d'un savoir qui lui échapperait, en même temps de perdre son temps. Et c'est pas pour rien que ensuite il utilisera cette métaphore du Lazare, l'ethnologue comme Lazare,
l'ethnologue. Celui qui renaît de ses cendres.
Celui qui revient de la mort, d'une certaine manière, qui est une sorte de mort vivant. Et c'est ça c'est cette figure qu'il utilise pour évoquer, finalement, l'ethnologue de retour de terrain.
J'ai commencé cet épisode avec ce qu'on appelle les grandes découvertes. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui découle de là dans Triste Tropique, c'est-à-dire la description du processus de la mondialisation et de ses conséquences?
Totalement. Triste Tropique, c'est une sorte d'ouvrage tout à fait particulier, mais qui est traversé par des temps zigzagants. Donc à la fois une sorte d'épopée critique de la modernité, c'est-à-dire, en effet, dès lors que les hommes ont commencé à se rencontrer, c'est une rencontre malgré tout malheureuse, c'est ça qu'on voit, parce que sur le moment, on sait que, en effet, vous avez parlé du choc microbien, etc. C'est une sorte de bérésina, enfin c'est la démographie amérindienne est détruite quasiment. Et puis, à long terme, c'est-à-dire à plusieurs siècles, tous ces échanges, ces commerces, etc., ce commerce, ce doux commerce, comme on disait au XVIIIe, il aboutit pour Lévi-Strauss à, plusieurs phases de mondialisation. Lorsqu'il écrit ça dans les années 50, la planète, alors que dirait-il aujourd'hui? Ce qui est très étonnant quand on lit Triste Tropique, c'est qu'on se dit, ça n'a pas pris une ride, au sens où on se dit, quand même, il exagérait en 1955 écrire ça. Mais lui, il le ressentait comme ça, c'est une planète déjà sillonnée
par... Il commençait à le voir quand même.
Oui,
aussi.
Les voies aériennes, etc., etc., la démographie, etc., etc. Bon, et tout ça, disons que je pense que lui, sa position, c'est de dire, et c'est ce qu'il dira dans Race et histoire, d'une part, et dans Race et culture, d'autre part, qui sont deux textes présentés à l'UNESCO, l'un au début des années 50, l'autre au début des années 70, c'est-à-dire finalement d'essayer de trouver une position où il faut des échanges, mais pas trop.
Faisons une pause dans l'histoire de Lévi-Strauss. À moi aussi, Il m'arrive de jouer aux explorateurs. C'est au péril de ma vie que je m'aventure parfois dans les coins inexplorés de la salle des archives. Je dois en effet vous révéler aujourd'hui que pour m'y rendre, il me faut descendre dans une salle immense située sous la maison de la radio. Elle est remplie de milliers de batteries de voitures, empilées les unes sur les autres, qui permettent à notre institution de continuer à fonctionner durant un quart d'heure en cas de coupure de courant, le temps pour le groupe électrogène de se mettre en route. Au bout de cette salle, je dois ouvrir une trappe et descendre une échelle à laquelle il manque plusieurs barreaux. Et c'est là, au fond d'un couloir humide et derrière une porte anti-atomique, que se trouve la salle des archives. Et c'est au cours de l'une de ces visites héroïques que j'ai pu retrouver, à la lumière d'une lampe frontale, une bobine de 1949 qui va nous permettre de raconter une histoire. Une histoire qui finit mal, celle d'un explorateur qui a trop d'imagination, d'un explorateur trop romantique.
Raymond Maffray est un homme jeune de 22 ans, parachutiste pendant la guerre, qui a accompli l'exploit de pénétrer en 1946 au Brésil dans le territoire interdit où vivent les féroces Indiens des Chavantes, surnommés là-bas les tueurs du Mato Grosso. Ce territoire se trouve à 2000 km environ au nord-ouest de Rio de Janeiro, près, et certainement le premier Européen ayant pénétré dans ces terres. Il a parcouru le trajet à cheval et à pied avec une expédition du service de protection aux Indiens et il est resté là-bas 8 mois en pleine brousse. J'ai d'ailleurs vu des photographies sous les yeux et sur cette photographie, Raymond Maffray est en train de se frayer un chemin parmi une brousse invraisemblable. Ce que je voudrais vous demander comme première question, Raymond Maffray, c'est que vous me disiez, que vous évoquiez un de vos souvenirs là-bas.
Je crois que le souvenir le plus durable pour un civilisé, c'est de chevaucher dans la brousse et de voir à quelques mètres de soi une tombée, une grêle de flèches. En plein XXe siècle, ceci présente peut-être quelque invraisemblance, mais tout de même, ça rappelle un peu les films que je pouvais voir lorsque j'étais très jeune, les films de cow-boys, d'aventures, de Far West. Et c'était vraiment l'aventure qui s'offrait à nous lors de cette attaque. Je n'ai pas vu le danger, j'ai vu seulement des Indiens qui, parmi les taillis qui couraient, des arcs bandés, puis plus rien d'un seul coup.
Voilà le genre d'aventurier que détestait Claude Lévi-Strauss. Le jeune Raymond Maffray semble en effet avoir quelques préjugés sur les collectifs autochtones. Il paraît être venu à leur rencontre davantage pour chercher le frisson que pour les comprendre. Et puis, comme il le dit lui-même, Maffray espérait aussi rejouer, dans sa vie, des scènes d'aventure aperçues dans des films. Face à son bureau d'adolescent, Raymond Maffray avait accroché une carte du Brésil et tracé une croix à l'emplacement du Mato Grosso. À sa mère, qu'il interrogeait sur la raison de la présence de cette croix, il avait répondu de façon sibylline « c'est là que j'irai ». Car Raymond Maffray n'avait peur de rien. Il avait été scout et son nom de totem était « Otari Téméraire ». Pour l'Otari, je ne sais pas ce qu'il en était vraiment, mais il est certain qu'il était téméraire. En 1947, après son premier voyage, le jeune homme retourne en Amazonie. Peu, voire pas préparé, il s'enfonce dans la jungle sans prévoir de ravitaillement, espérant se nourrir uniquement de la cueillette et de la chasse. Mais bientôt, il a la cheville en lambeaux, ne trouve rien pour se nourrir et souffre de dysenterie tandis que la faim le fait délirer. À bout de force et de nourriture, il abat son chien Bobby et le mange.
Maffray, ben notez-le bien, est entré dans la grande aventure depuis déjà 4 mois. Il n'y a donc plus lieu maintenant de s'attendre à le voir revenir à son lieu de départ. Il a foncé de l'avant. Où est-il à l'heure qu'il est? A-t-il réussi à prendre contact avec une tribu indienne qui lui aura donné l'hospitalité et peut-être un guide? Espérons-le.
Votre opinion est donc que sans l'aide des Indiens, Raymond Maffray ne peut pas réussir à accomplir son périple?
C'est l'opinion de tous ceux qui connaissent bien la frère guyanaise.
Vous êtes donc pessimiste?
Je suis pessimiste.
La fin de cette histoire est tragique, puisque tout ce qui sera retrouvé de Raymond Maffray, ce sont ses affaires. Son père passera ensuite 10 années de sa vie à le chercher dans la jungle, en vain. Emmanuel Loyer, dans les toutes premières lignes de Triste Tropique, Lévi-Strauss écrit « Je hais les voyages et les explorateurs ». Est-ce que vous pensez qu'il pensait qu'il avait en tête des explorateurs du genre du pauvre Raymond Maffray, aveuglé par leur romantisme?
Sans doute. Mais c'est vrai que, à l'époque, dans les années 40-50, il y avait même le prix de l'aventure, ou je sais plus, il y a un prix littéraire que Lévi-Strauss va hautement refusé, qui avait été accordé à Triste Tropique en 1955. C'est vrai que c'est, pour lui, c'est l'horreur, quoi. Il veut surtout se démarquer, finalement, de toute cette littérature frelatée de l'aventure qui fait frissonner à bon compte. Alors, de temps en temps, il y en a un, comme là, le pauvre, on est désolé pour lui. Ça montre que, quand même aussi, malgré tout, que aller dans le Mato Grosso dans les années 30, c'était quand même, on pouvait y risquer sa vie. De fait, le moment où il va vers les Nambiquara, c'est quand même ça, d'ailleurs Dina le dit, etc. C'était possiblement très dangereux.
Oui. Est-ce que vous diriez quand même que sa femme et lui sont tentés par l'aventure, sont tentés par ce romantisme-là, même s'ils essayent de le rationaliser?
Disons qu'il y a ce côté, je pense, de c'était quelqu'un qui avait envie de sortir de la bibliothèque. Pour lui, le choix ethnologique, le choix de l'ethnographie, hein, comme on disait, c'était aussi le choix d'aller finalement, dans un premier temps, collecter. Ensuite, il verra les choses autrement, mais collecter un certain nombre de données et de ne pas triturer les textes à l'excès, si vous voulez. Ce que la philosophie était pour lui. Donc il y a quand même cette dimension
se raccrocher au concret qui lui manquait peut-être.
De réalité, d'intérêt pour des humanités autres. C'est vrai que, mais dès le début, on voit très bien en même temps. Et là, c'est son côté esthète. Par exemple, quand il débarque chez les Kadouveo avec ces femmes dont on connaît les images,
les
prises en photo,
visage.
Les dessins sur les visages, qui sont, c'est vrai, il est absolument époustouflé par. Tout de suite, il a l'intuition, si vous voulez, qu'un tel art, une telle, disons, comment dire, qualité artistique, est le signe d'une humanité pleinement sûre d'elle-même, en tout cas dans ce domaine-là.
Pour qu'on se rende un petit peu compte, quand ils partent avec Dina, est-ce qu'ils savent exactement où ils vont? Est-ce qu'ils savent exactement, ou presque, ce qu'ils vont trouver, les personnes qu'ils vont rencontrer? Ou est-ce qu'il y a quand même une grande, grande part d'incertitude dans cette mission?
Du côté, pour les Kadouveo et pour les Bororo, ils savent à peu près.
Donc pour la première mission.
Pour la première mission. Pour la deuxième mission, les Nambiquara, ils savent pas. Et d'ailleurs, alors ils savent que il y a des groupes de Nambiquara qui ont la réputation d'être très dangereux, qui sont dans une région où ils se rendent, mais assez souvent, ils vont d'ailleurs chercher les groupes, etc. Enfin, on voit que...
Ils savent à peu près quelle est la région, mais ils ne savent pas exactement où les trouver.
C'est ça. Bon, finalement, ils les trouvent quand même assez facilement et ils vont rester quelques semaines. Pas Dina, parce que très vite, en fait, elle est obligée, elle est contrainte de quitter l'expédition. Donc, en réalité, elle y reste peut-être 15 jours et pas plus... À cause d'une maladie des yeux, ils ont tous une ophtalmie purulente et elle doit regagner San Paolo.
Quand les Lévi-Strauss quittent San Paolo pour leur première mission, ils ne partent pas seuls, mais avec des accompagnateurs. C'est même une expédition importante, ce qui rajoute de la complexité logistique à l'affaire. D'autant plus que les conditions de voyage sont extrêmement difficiles. Dans Triste Tropique, Lévi-Strauss décrit: je me rappelle ces heures de conduite anxieuses, la nuit tombée, sans savoir à quel instant nous trahirait le sillon que nous avions choisi entre 10 autres. Il n'existe évidemment pas de carte de la région où ils se rendent. Les pistes sont très peu praticables et elles peuvent disparaître d'un moment à l'autre dans la végétation. Et puis, il faut souvent décharger les camions pour franchir des cours d'eau ou se désembourber. Quand ils tombent en panne, c'est toute l'expédition qui est ralentie, parfois même arrêtée durant plusieurs jours. Sans compter qu'il y a la chaleur, les moustiques, les serpents, les fourmis, les araignées, ce qui rend le repos difficile. Les membres de l'équipée craignent enfin les maladies, et en particulier le palu. Tout cela, cependant, n'est que le début du voyage.
Ce que j'ai voulu essayer de montrer dans Triste Tropique, c'est cette épaisseur humaine qui sépare les sociétés qui font notre objet d'étude de... nous-mêmes et de nos propres sociétés, que pour les atteindre, on ne franchit pas seulement le miroir d'Alice quand elle passe de l'autre côté, mais qui a toute
un effort à accomplir, les formalités administratives, les difficultés politiques, les complications de voyage, les formes intermédiaires de société qui, comme une sorte d'empilage, n'est-ce pas, viennent s'intercaler entre les grandes villes civilisées et puis ces populations qui se trouvent à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. On ne passe pas là d'un seul coup. Il faut traverser des couches, un petit peu comme le plongeur qui traverse des couches dans la mer avant d'arriver à atteindre les fonds. Et c'est cette dimension qui retentit bien entendu sur l'objet de nos études, car il faut bien dire que quand nous arrivons sur le terrain, nous y arrivons trop souvent épuisés, exaspérés, pas seulement par les difficultés géographiques ou mécaniques, enfin, des espaces à franchir, mais par tout ce qu'il a fallu vaincre de résistance humaine pour qu'on vous laisse pénétrer jusque-là. Eh bien, tout ça, ça m'a paru être une partie intégrante de notre étude.
Alors, durant cette première mission, Claude Lévi-Strauss nous raconte qu'il tombe à un moment donné sur des colons français dont il fait un portrait assez tragique, qui vivent dans un très grand dénuement, qui exploitent en même temps des populations locales et dont l'un sera assassiné par ses employés. Donc il y a un petit peu des histoires comme ça à l'intérieur de Triste Tropique. Ça va être le cas aussi avec Emidio. Emidio qui est l'un des personnes qui les accompagne et qui à un moment donné a un accident. Il se tire accidentellement dans la main. Il manque de perdre sa main. Et Lévi-Strauss décrit sa main qui est pleine de vers qui lui mange les chairs. Donc il y a ces moments qui sont un petit peu des flashs, un petit peu des instantanés dans Triste Tropique et qui racontent aussi, là pour le coup, l'aventure que constitue, à l'intérieur même de l'aventure, voilà, ces histoires lors des trajets à travers la jungle de Lévi-Strauss et puis de Dinah.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Triste Tropique, c'est pas du tout l'exposé surplombant de résultats de recherche, etc. C'est un des livres qui, en effet, décrit vraiment les coulisses, finalement, de la recherche anthropologique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est tout à fait attentif à retracer finalement toute la logistique et la cuisine interne de ces expéditions. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la violence et la difficulté, c'est dire que le terrain ethnographique, c'est vraiment un terrain d'où on ressort différent aussi. Et ça fait partie, je pense que c'est pour ça, quand il dit il faut traverser des couches d'épaisseur humaine, on arrive exténué, etc. Il faut bien comprendre que je pense que c'est aussi, voilà, les ethnologues travaillent sur les autres, mais ils sont travaillés dans leur corps, là, quand ils sont dans un état, je pense, en effet, de une sorte de fièvre aussi, au sens propre et au sens figuré. Et il a toujours comparé le travail ethnographique à une forme de cure analytique.
Finalement, la mission parvient à localiser un village d'autochtones et tente de se renseigner sur leur compte. Il s'agit de savoir s'ils peuvent les rencontrer sans danger. Car les histoires les plus effrayantes circulent au sujet de ces villages où des missionnaires protestants ont été tués quelques années plus tôt. Finalement, Emmanuel Loyer, l'accueil a été bon à peu près partout où ils sont passés. Ils n'ont pas été accueillis avec des flèches comme Raymond Maufré.
Non, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il décrit toutes les opérations, je dirais, ethnologiques, ethnographiques. Donc, on a ça dans les archives de Lévi-Strauss, c'est-à-dire tous les carnets, les listes de noms, les schémas de parenté, les couleurs, etc. Bon, tout ça a été publié d'ailleurs récemment dans un très beau livre.
Quand j'ai voulu aller chez les Kaduvéo, les derniers résidents blancs de la région disaient « mais c'est pas la peine, c'est un ramassis de mendiants, de bandits du grand chemin, vous n'avez rien à y faire, vous n'y trouverez rien qui mérite l'attention ». Et comme c'était mon programme d'y aller, j'ai tenu tout de même à y aller, on m'y a aidé. C'était un voyage de quelques jours à cheval avec des bœufs de portage. Et j'ai trouvé en effet un résidu de population extrêmement misérable qui, au premier abord, ne se distinguait guère des paysans brésiliens les plus pauvres de l'intérieur.
Et c'est seulement après, disons, quelques heures de séjour que je me suis aperçu que ces Kaduvéo avaient, malgré leur état lamentable, conservé ce qui avait tellement frappé les anciens missionnaires au XVIIe et XVIIIe siècle chez les Guaycurú, c'est-à-dire des peintures corporelles d'une richesse, d'une variété, d'une beauté tout à fait étonnante. Et mon séjour n'a pas été très long chez les Kaduvéo. Il s'agissait essentiellement pour moi de faire des collections d'objets pour le Musée de l'Homme. Je ne peux pas donc dire avec certitude, j'ai eu cependant l'impression très nette, que toutes les femmes, parce que c'est un art féminin, que toutes les femmes peignaient et se peignaient le visage, et que les différents motifs qu'elles utilisaient ne correspondaient plus à des distinctions sociales, à moins que cela ne fût tenu très secret, c'est toujours possible, mais plutôt à un souci décoratif et de parure. Et je dois dire que pour exécuter de tels dessins, pour les recopier, je m'y suis exercé souvent et j'ai peint dans ma jeunesse, j'ai dessiné, donc je ne suis pas absolument maladroit dans ce domaine. J'avais le plus grand besoin de lignes de construction. Et le fait extraordinaire et constamment stupéfiant, c'est que quand une femme peignait le visage de sa compagne, elle partait d'un coin, en général d'un œil, et puis elle recouvrait tout le visage sans hésitation, sans repentir, sans jamais se corriger. Et ces dessins dont nous avons tellement de mal à comprendre le principe organisateur, ils se développaient comme un tour de prestidigitation du haut en bas et de la droite vers la gauche.
Emmanuel Loyer, au lieu d'un ailleurs réellement désirable, Lévi-Strauss trouve un peuple à la fois misérable et en même temps magnifique et passionnant. Est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé, et ça c'est à votre intuition que je pose la question, ce qu'ils cherchaient ?
Non, vraisemblablement pas, mais à chaque fois, le séjour est illuminé par une surprise esthétique, d'ordre esthétique, qui, on le voit bien, redonne sa valeur, finalement, à un voyage par ailleurs décevant, puisqu'il dit ce sont comme des paysans déguenillés. Pour les Kaduvéo, donc, on sent bien l'admiration très grande hein, pour cet art des peintures corporelles des femmes. Et je dirais qu'il y a un peu l'équivalent chez les Bororo, où le séjour est illuminé par la beauté des rituels funéraires, où là, c'est plutôt un art masculin. Donc à chaque fois, on a l'impression que la partie est perdue, et finalement, elle est regagnée.
Les semaines passées parmi les Kaduvéo constituent le baptême du feu ethnologique de Claude Lévi-Strauss. Mais les Kaduvéo sont déjà en partie contaminés, entre guillemets, par la civilisation occidentale. Malgré les difficultés, il est prêt à retourner dans la forêt à la recherche d'autres populations. Car comme il l'écrit dans Triste Tropique, « Après ce baptême du feu, j'étais prêt pour la vraie aventure ». La forme que cette aventure prendra, nous le verrons au prochain épisode.
Et surtout, on s'interroge. Qu'est-on venu faire ici ? Dans quel espoir ? À quelle fin ? Qu'est-ce au juste qu'une enquête ethnographique ?
C'était Triste Tropique, l'aventure humaine, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly, attachée de production Lily Corner, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, prise de son et mixage Manon Houssin.